Bonsoir, merci d'être venu aussi nombreux. Je vais tâcher d'être court dans ma présentation parce que je ne vais pas vous faire l'injure de vous présenter Jean-Paul Kaufmann. J'aimerais simplement vous dire, à l'usage de ceux qui par hasard n'auraient pas lu le livre, un petit préambule. Jean-Paul Kaufmann a depuis maintenant très longtemps le talent d'aller sur des terres de nulle part pour amener des histoires incroyables. Ce sont des terres auxquelles personne ne songe. La première de ses expéditions fut les îles de Kerguelen. Il y a eu après la chambre de Longwood de Napoléon. Et puis tout dernièrement, un ouvrage qui en dit beaucoup sur la France oubliée, une France que l'on voit de dos, qui était Les bords de la Marne, qui était un livre formidable. Et celui-ci, Outre-Terre, est un livre qui est peut-être de tous ceux de Jean-Paul, peut-être celui qui m'a le plus intrigué, le plus ému, peut-être le plus bouleversé, même. Mais c'est un livre qui vous prend, qui vous accompagne et dont on ne sort pas véritablement de la même façon qu'on y est entré. Ce livre-là, c'est l'histoire d'Aïlo, un Aïlo revisité par Jean-Paul Kaufmann, revisité en famille. Et c'est-à-dire qu'il est allé à Aïlo, qui est une ville qui n'existe plus, dans un pays qui n'existe pas, qui est une enclave russe entre Balte et Pologne, dont j'ignorais tout d'ailleurs, je ne savais même pas que c'était appartenait à la Russie, je l'ai appris en lisant ce livre, que les Russes appellent l'Outre-Terre, comme nous on appelle des terres outre-mer, et dont la capitale autrefois fut Königsberg, et qui fut la ville de Kant, et qui s'est rebaptisée bien plus tard, qu'on a rebaptisée bien plus tard, et qui a changé donc trois fois de nom. Alors, tout d'abord, la première question que j'aimerais vous poser, Jean-Paul, c'est pourquoi Aïlo et pas Waterloo, par exemple, quant à choisir une bataille de Napoléon.
Pourquoi Aïlo d'abord, parce que c'est justement une bataille incertaine. Et moi, j'aime bien les choses un peu floues entre les deux. La bataille d'Aïlo, on dit la bataille d'Aïlo, ce n'est pas la victoire d'Aïlo. Donc, c'est une bataille incertaine. Napoléon l'a gagné, mais bon, on peut dire que c'est un match nul avec un léger avantage à Napoléon. C'est une bataille dont on parle finalement assez peu dans ce qu'on appelle aujourd'hui le roman national. Et je dirais que c'est même un trou de mémoire. Par un tour de prestidigitation. Napoléon, en premier lieu, a voulu justement faire disparaître cette bataille. Pourquoi ? Parce que il a failli tout perdre ce jour-là. Hein. Il a failli être capturé. Et c'est une bataille où tout se déroule, enfin, très mal. Et il a surtout la révélation, lui qui était accompagné par la fortune, Buonaparte, hein, comme disait Michelet, la bonne part, le général chanceux, il a ce jour-là la révélation que de la poisse, de la malchance. Et ça, il ne l'oubliera pas. Et dans ce livre-là dont Yves parle, La chambre noire de Longwood, j'avais déjà évoqué Aïlo, hein, ce livre qui a pour sujet Sainte-Hélène. À Sainte-Hélène, Napoléon, il accepte de parler à peu près de tous les sujets, même de Waterloo. Il refait d'ailleurs presque quotidiennement la bataille de Waterloo pour voir ce qui a cloché, pourquoi il l'a perdu. Mais alors, il y a un mot qu'il ne veut pas entendre parler, c'est Aïlo. Et d'ailleurs, Bertrand, qui l'a accompagné, qui a participé à la bataille d'Aïlo, un plaisir un peu sadique à le titiller à ce sujet. Donc, Aïlo, c'est un nom prohibé. Bon, toutes ces raisons-là font que cette bataille m'intéressait. De la même manière, moi, dans l'histoire de Napoléon, ce n'est pas du tout le vainqueur d'Austerlitz ou d'Iéna qui m'intéresse, justement, comme à Sainte-Hélène, c'est l'homme vaincu, c'est l'homme, comme je l'ai écrit déjà, dans, l'objet le plus intéressant de Sainte-Hélène, c'est la baignoire. C'est l'homme nu dans sa baignoire, hein, puisqu'il a passé les 2 dernières années de sa vie dans une baignoire, pratiquement. Il était tellement déprimé, même si ce mot-là n'existait pas alors. Et donc, vous voyez, l'homme nu, l'homme désarmé, l'homme vaincu. Et l'eau s'inscrit peut-être, hein, dans ces catégories-là. Donc voilà, il y a un certain nombre. Oui, c'est toujours pareil. Quelles sont les raisons? Quand il y a beaucoup de raisons, aucune n'est véritablement convaincante. Et c'est peut-être pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, pour essayer justement d'élucider ce pourquoi et les raisons de.
Quand vous dites que vous aimez les choses floues, vous ne pouvez pas choisir mieux que ce paysage, parce que de la description que vous en faites, c'est un paysage totalement laiteux, où on ne voit pratiquement jamais le soleil. Napoléon ne le verra pas durant la bataille. On arrive à confondre le jour et la nuit. C'est une sorte de paysage gris perpétuel. Et surtout, ce qu'il faut rappeler, la bataille d'Eylau est une effroyable boucherie. Et sous la terre glacée, il reste les os des soldats morts. Alors, est-ce que c'est ce souvenir que le baron Gros, dans son tableau célèbre dont vous parlez également très souvent dans le livre, a figé un peu, a rappelé, parce que c'est rare de voir un tableau avec une boucherie, même si c'est resté une victoire et que les Russes et les Prussiens se sont retirés. Mais qu'est-ce qui vous a intéressé là-dedans, cette recherche des eaux mortes, cette recherche des fantômes?
Oui, tout à fait. Quand on me pose la question, quel sujet de Outre-Terre, c'est un livre sur les fantômes. C'est un livre sur les revenants. Et c'est vrai que lorsqu'on visite, je l'ai fait avec ma femme et mes enfants, là, puisque d'abord, c'est le récit d'un voyage en famille. Hein. La bataille d'Eylau est présente du début à la fin, et puis j'ai fait beaucoup de recherches, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais d'abord c'est le récit d'un voyage en famille, et c'est vrai qu'on sent une présence invisible quand on visite le site d'Eylau, qui est très émouvant parce qu'il n'a pratiquement pas bougé. Hein, Waterloo, tous les sites de bataille napoléonienne ont été complètement métamorphosée, et Eylau est intacte, et l'église est même là, on la voit, la fameuse église qui figure dans le tableau du baron Gros. C'est un peu d'ailleurs l'icône de la bataille. Quand on voit cette église avec ce champ de neige, on sait aussitôt qu'on a affaire à Eylau. Et donc tous ces morts là qui, le soir de la bataille, parce qu'il faut quand même dire une chose, c'est que le soir d'Eylau, il y a un sentiment absolument de dégoût, d'écœurement des combattants. C'est un véritable cloaque. Hein, il y a tout ce sang, tous ces morts aplatis, tous ces membres-là, parce que c'est une grande bataille d'artillerie. Hein, c'est sans doute une des plus grandes batailles d'artillerie de la première moitié du 19e siècle. Pendant 15 heures, c'est un feu roulant de canons rarement égalé. Donc, il y a tous ces corps aplatis, écrasés, etc. Donc, ces fosses-là, le soir, ont été creusées les jours suivants pour enterrer ces milliers de morts. Et vous savez, c'est un peu comme un volcan. Hein. Il y a des zones, il y a des moments de repos, puis par moment, ça travaille, et les squelettes remontent à la surface, les boulets, les biscayens, les ceinturons, etc. Et ça arrive presque quotidiennement à Eylau. Et on sent cette présence. On sent cette présence, elle est là. C'est un peu, je ne sais pas si vous avez visité Verdun, c'est toute proportion gardée, c'est un peu la même sensation qu'on peut avoir. Et évidemment, le revenant, le fantôme le plus intéressant, je ne peux pas dire qu'on est à la recherche de ce fantôme, c'est un personnage imaginaire qui occupe une place importante dans ce livre, c'est le colonel Chabert, personnage de Balzac, et vraiment c'est la trace la plus vivante, c'est cette figure inventée, imaginée. C'est certainement la trace la plus vivante de cette bataille d'Eylau. Je rappelle le sujet du colonel Chabert. Le colonel Chabert a fait partie de cette fameuse charge, la grande charge de Murat. Il faut savoir aussi là que une des plus grandes charges de cavalerie, probablement la charge de cavalerie la plus impressionnante, gigantesque de l'histoire militaire européenne, a eu lieu à Eylau, bien plus importante que les charges qui étaient très très spectaculaires de Ney à Waterloo. Et donc le colonel Chabert, colonel de la garde, corps d'élite, et il va être donné pour mort lors de cette fameuse charge. Et ben, il revient en France 9 ans après. 9 ans après, et puis le monde a changé. L'Empire s'est effondré, et puis il est dans un monde qui n'est plus le sien. Hein, c'est la Restauration. Et ben, c'est un sans-papier, le colonel Chabert. Donc il va essayer de récupérer son état civil, sa femme. Sa femme, ben, elle a cru qu'il était mort, elle s'est remariée, elle a 2 enfants. Il va essayer de récupérer sa fortune. Et puis, bon, ben, il va constater que c'est impossible. Personne ne veut le voir. C'est un revenant, on le reconnaît plus ou moins, mais. Et puis il est. C'est un facteur de chaos aussi, hein, ce Chabert, puisque sa femme, elle a 2 maris, hein, aussi.
Sa femme a fait un très riche mariage.
Oui, voilà. Donc, ouais, le colonel Chabert donc, occupe une place très importante dans ce livre, comme en effet aussi la peinture du baron Gros. Parce que là aussi, il faut peut-être expliquer comment les choses se sont passées et qui sont aussi peu banales. Parce que Napoléon, le soir de la bataille, lui, il est traumatisé, absolument sonné par ce qu'il vient de voir. Il s'attend d'ailleurs à livrer une seconde bataille le lendemain matin, et il est très étonné par la pugnacité de l'armée russe, et puis aussi par tout ce sang versé, et puis son bel instrument, la grande armée, elle a reçu un coup, hein, Napoléon sait qu'il n'y a pas de quoi crier victoire, et il va avoir cette idée saugrenue très rapidement d'organiser un concours de peinture justement pour reconquérir le champ de bataille, parce qu'il sait que c'est pas véritablement une victoire. Donc il va faire organiser un concours de peinture, et c'est lui qui va indiquer le cahier des charges, qui est très strict, hein. L'église, comment il doit être habillé, qui doit figurer sur la toile, etc. Et ce qui est incroyable dans cette histoire-là, c'est que le résultat, on peut le voir quand on va au Louvre, et c'est vraiment une toile. Parce qu'aucune reproduction ne rend compte d'une toile pareille, elle est vraiment extraordinaire. Et ce qui est étonnant dans cette affaire-là, c'est que tout ce que Napoléon a voulu camoufler, c'est-à-dire le carnage, les mutilations, ben c'est totalement évident. Lui aussi a voulu retourner l'événement, hein, et c'est ce qui est pour moi un mystère, une énigme, c'est que Napoléon, qui est un homme, évidemment, qui était un homme supérieurement intelligent, et l'homme du coup d'œil, il était un peu inquiet, un peu anxieux, le baron Gros, lorsqu'il a présenté la toile, il se dit il va pas aimer du tout. Et Napoléon a tiré sa propre Légion d'honneur et l'a piqué sur la redingote de baron Gros, qui a été évidemment très soulagé.
Alors, nous voulons de parler d'un aspect du livre, qui est l'aspect du livre le plus tragique d'une certaine façon, le plus mystérieux. Mais il y a également tout un autre côté dans le livre, comme vous le faites très souvent, qui sont les anecdotes qui accompagnent ce livre et qui donnent qui donne finalement un ton ironique, un ton très amusant, un ton un peu parfois un peu décalé à l'ensemble.
Mais gay, on peut dire, j'espère.
Pardon.
Gay, un ton gay,
très gay.
Enfin, j'ai essayé d'avoir.
Absolument. Oui. Et qui vient d'ailleurs de ce voyage en famille. Parce qu'il faut préciser que ce voyage à Hello résulte d'une très très lente maturation et qui sera conclue d'une phrase définitive de Joël Kaufmann au moment où vous prenez la décision que je vais vous citer. Donc, l'entrepaturation, pourquoi ? Vous faites un premier voyage à Hello en 1991,
oui.
Et vous en parlez en famille en 1997, vous dites, tiens, dans 10 ans, pour l'anniversaire de la bataille d'Hello, donc en 2007, nous irons à Hello, et vous écrivez le livre en 2016. Et quand vous, finalement, vous décidez, toute votre famille, c'est-à-dire femme et enfant, et vos deux grands garçons, d'aller à Hello, votre femme a ce mot que je trouve assez, assez joli, mais il doit faire froid l'hiver, c'est mieux le Cameroun, non ?
Oui, 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 bah, c'est vrai qu'ils n'ont pas été déçus.
Mais comme si le brave entre les braves, elle vous accompagne à Hello.
Oui, oui, bah, j'avoue, je voulais certainement, probablement que je ne voulais pas affronter ce pays tout seul, parce que comme Yves Arthé vient de le dire, je connaissais ce lieu, puisque c'est important peut-être aussi d'en parler, et c'est ça qui m'avait attiré d'abord. D'emblée, c'est que d'abord c'était une zone interdite, donc l'ancienne Prusse orientale, pays cher aux Allemands, et que Staline a annexé purement et simplement après la guerre, enfin en 45, pour dédommager l'URSS des dommages et de toutes les victimes subies par le régime nazi. Et donc tous les habitants de cette Prusse orientale, du jour au lendemain, ont été expulsés. Hein ? Il n'en restait plus un seul. Et on a fait venir des quatre coins de l'Empire soviétique des gens qui ne savaient pas du tout ce que c'était, qui ne savaient pas du tout ce qu'était la Prusse orientale. Et c'était une zone interdite. Et c'était quelques mois avant la fin de la chute du communisme. Et ils commençaient à accorder des visas. Et moi, j'ai voulu aller là-bas parce que à cause du nom, le nom de Königsberg. Ça s'appelle aujourd'hui Kaliningrad, mais Königsberg, il y a des noms comme ça qui vous font rêver. Je sais pas, enfin, en tout cas, moi, Königsberg me faisait rêver. C'était l'ancienne capitale de c'était la capitale de la Prusse orientale où se faisaient sacrer les rois de Prusse. C'est la ville natale d'Emmanuel Kant. Et puis, c'était une ville, une des plus belles villes d'Europe. Donc, je voulais voir ce qu'il en restait. On ne savait absolument pas qu'était devenue l'ancienne Königsberg. Donc, je crois que j'étais un des premiers Français à aller là-bas. Et j'ai appris d'ailleurs que se trouvait non loin de Kaliningrad, puisque ça s'appelle aujourd'hui Kaliningrad, se trouvait le champ de bataille d'Hello, et j'ai voulu aller le voir. Et c'est la raison pour laquelle, justement, en 97, au moment de la chambre noire de Longwood, voilà, un dimanche soir en famille, je dis tiens, ça serait amusant peut-être d'aller à Hello pour le 200e anniversaire de la bataille. Et ma famille pensait que tout ça allait être oublié. Ils n'étaient pas très enthousiastes, hein, il faut bien le dire. Parce que le jour où on est arrivé à l'aéroport de Kaliningrad, il faisait moins 15 degrés. Je crois que ma femme et mes deux enfants étaient en état de sidération. Faisait très très froid d'ailleurs, comme à Hello, comme le jour de la bataille. Donc voilà, il y avait aussi cette curiosité de voir un peu comment ce qu'était devenu ce lieu, et qui est vraiment très particulier, parce que les gens aussi de cette enclave de Kaliningrad sont des Russes, bien sûr, mais ce sont aussi des Européens, parce que cette enclave, il ne faut pas l'oublier, se trouve au milieu de l'Europe. C'est une épine d'ailleurs, au pied de l'Europe, si on peut dire. Et elle est coincée entre la Pologne au sud et la Lituanie au nord. Et c'est une source de problèmes pour l'Union européenne, parce que ces Russes-là qui vivent dans l'enclave sont séparés de la mère patrie. La ville la plus proche est à 900 km. Il faut traverser la Lituanie ou la Biélorussie. Avant 91, avant l'indépendance des Pays-Baltes, ça posait pas de problème, ça faisait partie du même bloc. Donc ça donne aussi un pays très, oui, très, très, très étrange, un pays aussi de l'entre-deux, un pays du flottement, et c'est ça aussi qui m'a intéressé.
Alors, quand vous arrivez en famille, et là, la plaine que vous allez découvrir est en train de se peupler. Et alors, donc, on assiste à ce moment-là à une galerie de personnages qui arrivent, qui traversent votre livre. Parfois, certains s'installent, et pour notre plus grand bonheur d'ailleurs. Et quand vous arrivez au moment d'une reconstitution, une reconstitution va avoir lieu. Une reconstitution dont vous n'imaginiez pas l'ampleur, d'une part, et d'autre part, qui amène à Eylau, sur le champ de bataille d'Eylau, des personnages assez amusants. Alors, d'abord, l'une des personnages qui vous accompagne, et pour de très bonnes raisons tout au long de ce séjour, c'est votre guide Julia.
Ah oui, ça
Votre
oui.
guide Julia est très jolie. Elle intéresse beaucoup vos garçons. Et vous regardez ça avec un œil parfois sympathique, parfois un peu agacé, parfois. Mais enfin, Julia fait quand même son boulot jusqu'au bout. Elle traduit parfaitement et les situations et la langue locale.
Oui, tout à fait. Nous, on pensait visiter le champ de bataille tout seul, la famille Kaufmann seule. Et puis, on a été très étonnés d'apprendre que les Russes organisaient 4 jours de célébration et avec à la fin une reconstitution parce qu'eux pensent qu'ils ont gagné la bataille. J'ai parlé, là, il y avait une sorte de colloque. J'ai parlé un jour, là, devant eux, et ils n'arrivaient pas à comprendre, par exemple, qu'à Paris, il y avait une avenue d'Eylau. Ils ont dit, mais c'est une défaite pour vous. Comment se fait-il qu'une église qui porte le nom de Saint-Honoré d'Eylau, j'aurais dit d'ailleurs que c'était l'église la plus chic de Paris. Donc, eux, ils pensent qu'ils ont gagné la bataille. Bon, alors, il ne faut pas être chauvin, mais bon, malgré tout, comme je le disais tout à l'heure, c'est un match nul avec un léger avantage à Napoléon. Il est resté maître du champ de bataille. Donc, il a gagné. D'ailleurs, il n'en était pas tellement persuadé parce que, contrairement à ses habitudes, il est resté pendant une semaine sur le champ de bataille. Au milieu de ces morts, de tous c'était vraiment hideux à voir ce lieu, et pour bien signifier à l'Europe qu'il avait gagné cette bataille. Oui, alors donc, il y a cette reconstitution qui se déroule le dernier jour, et notre surprise aussi, c'était d'apprendre et de voir qu'un certain nombre de Français sont venus. Et ces Français-là, on les voit partout. On les voit pendant. Maintenant, c'est terminé parce que les batailles, on fête l'anniversaire maintenant de Sainte-Hélène. Donc, les batailles, c'est terminé. Le clou, ça a été évidemment Waterloo. Mais depuis les batailles d'Italie, depuis 1996, Lodi, tout ça, il y a eu des reconstitutions. Et il y a plein de Français qui participent, des reconstitueurs. Et on en voit, c'est comme de la Formule 1. On les voit un jour à Iéna, puis un autre jour à Borodino, etc. Et il y avait une cinquantaine de Français qui étaient là pour participer à cette reconstitution. Et il y a eu la charge de Murat. Bon, c'était assez modeste, mais malgré tout assez spectaculaire. Donc voilà, et je raconte au fond ces 4 jours. Parce que, bon, moi, dans ce livre-là, j'ai essayé justement c'est perpétuellement un va-et-vient entre le présent et le passé. Ce n'est pas un livre sur la bataille d'Eylau, il y a un certain nombre d'ouvrages. Moi, ce qui m'intéresse justement, c'est la trace. Qu'est-ce qui reste justement aujourd'hui d'un événement comme celui-là, tragique, dramatique? Quelle est la trace? Quelle est l'empreinte? Est-ce qu'il y a encore j'allais dire, des vibrations qui subsistent dans ce lieu? Il y a des fantômes, en effet, comme je le disais, comme il y en a d'ailleurs à Sainte-Hélène. Cette maison de Longwood est véritablement un lieu hanté. Et puis, moi, je dis toujours, si on ne croit pas, si on aime la littérature, on croit obligatoirement aux fantômes.
Alors, à propos de ce que vous appelez les reconstitueurs, Il y en a un qui arrive aussi dans le livre et que vous retrouvez à plusieurs reprises et qui est une figure du livre qui devient très amusante par son effet de répétition d'une part et puis par sa personnalité telle que vous la percevez, telle que vous la nous donnez à voir. Vous l'avez baptisé le cuirassé dépressif. Alors ce cuirassé dépressif, c'est un Français
oui.
Et qui est, dont vous découvrez avec stupeur que c'est intarissable. Ça. Il la connaît très très bien, aussi bien que vous. Et mieux que vous. Et donc, vous allez partager quelques instants avec lui. Et à un moment donné, vous arrivez à lui apprendre quelque chose. C'est que le colonel Chabert a eu un modèle qui est mort après des suites de la bataille des Lots, qui s'appelait le général Dopoul.
Oui, oui.
Et il vous fait cette réponse absolument surprenante. Ah oui, le colonel Chabert, ça m'est tombé des mains. Et alors, quelle a été votre réaction quand il vous a dit ça?
Ça m'a pas plu. Et c'est vrai que souvent dans mes livres, la première prise de contact n'est pas toujours très très bonne. Et puis après, ça va mieux. Et c'est vrai que j'étais extrêmement contrarié. Je me suis dit, parce que bon, j'ai beaucoup d'admiration pour Balzac et en particulier pour Chabert. Parce que Chabert, en plus de ça, c'est un personnage inépuisable. Et puis on peut s'identifier, au fond, tout le monde peut s'identifier à Chabert. Je disais que c'était un revenant, mais on est tous des revenants. On revient toujours d'une épreuve, d'une maladie, de prison, d'une captivité. Donc, à la différence de figures comme Eugénie Grandet ou même le père Goriot, parce que ça, ce sont véritablement des types, Chabert, on peut s'identifier à lui. Donc ça ne m'a pas plu. Et ça fait partie de ces personnages qui n'aiment pas les romans, qui n'aiment que les biographies, que ce qui est vrai, comme on dit. Donc voilà, mais bon, nos relations après se pacifient et deviennent plus sympathiques, oui, puisqu'à la fin, au moment où je lui dis « je vais essayer », là c'est le moment. Parce que ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que pour moi, l'objectif du livre, c'est un lieu. C'est la fameuse église des Lots, qui existe toujours. Et qui est une zone qui est interdite parce qu'il se trouve là une usine. Mais l'église est toujours là. Et moi, je me dis, il faut absolument que je pénètre dans cette église parce que cette église a eu énormément d'importance et surtout le clocher, puisque le clocher, Napoléon envoyait au fur et à mesure que la bataille se déroulait des membres de son état-major pour voir ce qui se passait. Parce que comme vous venez de le dire tout à l'heure, c'est une bataille où on ne voit absolument rien. Hein, il y a évidemment le brouillard, un brouillard givrant. Je disais qu'il faisait à peu près moins 15 degrés ce jour-là. Et puis, il y a aussi cette artillerie, une bataille d'artillerie très, très impressionnante. Et on ne le dit pas assez, il y avait énormément de fumée, une fumée noire très lourde. Le soir de la bataille, tout le monde est noir, comme des mineurs, hein, avec les uniformes qui sont comme carbonisés par ces fumées. Donc pour Napoléon, pour lui, le clocher des Lots, c'est véritablement l'œil de la bataille. Napoléon se tenait au pied de cette église, un endroit extrêmement dangereux, puisque autour de lui, il y a un certain nombre de membres de son état-major qui ont été emportés par des boulets, mais Napoléon, il voulait être là parce qu'il voulait voir. Et il était impératif pour lui de voir, d'avoir une perception de la bataille. Il faut quand même bien se figurer que cet homme est tout seul là et bon, il est très contrarié et d'ailleurs par moments il est tellement contrarié qu'on le voit fouetter avec sa cravache la neige, mais il ne peut pas faire part des sentiments qui l'animent à ce moment-là. Il est très angoissé, très anxieux parce que il pense que tout ça va se terminer sur cette plaine glaciale. Donc, il faut qu'il regarde, il faut qu'il puisse voir. Donc, il doit résoudre 20, 30 équations à la minute. hein, qui sont très lourdes, qui sont lourdes de conséquences. Et alors, bon, entre le moment où il envoie l'estafette et que les ordres arrivent, il se passe une autre péripétie. Donc, mais là, c'est là où justement la fameuse intuition, la fameuse expérience napoléonienne a donné toute sa mesure. Alors qu'à Eylau, véritablement, il a été, on peut dire qu'il a été très bon. Hein, alors qu'à Waterloo, il était pas en forme, il était plus ou moins, il était patraque à Waterloo. Puis il était loin de la bataille. Et ça aussi, ça a été un grand problème. Il voyait pas ce qui se passait. Il voyait pas que au moment où Ney attaquait les carrés anglais, il fallait que l'artillerie donne. Et ça, il s'en apercevait pas. Et c'est une des raisons, notamment, de la défaite de Waterloo. Donc, cette église a été pour moi l'objectif, et je me dis qu'elle est très surveillée, on ne peut pas pénétrer dans son périmètre. Et je me dis, et à plusieurs reprises pendant ce séjour, j'essaie d'entrer à l'intérieur de cette usine, et il y a des gardes, ils ne veulent pas que je rentre. Et je me dis, bon, la surveillance va se relâcher justement pendant la reconstitution, et je saisis cette occasion. Et en effet, je peux pénétrer à l'intérieur de ce périmètre, mais je ne peux pas non plus révéler.
Et là, c'est Julia qui vous.
Oui,
Qui
voilà. Non, non, mais je ne révélerai pas ce qui s'est
s'est passé.
passé.
Mais oui, vous
C'est
avez.
la fin du livre. J'essaie, moi, justement aussi de construire mes livres comme une sorte de. C'est peut-être prétentieux de dire ça, mais un peu comme des romans policiers, un roman policier, c'est-à-dire qu'on part à la recherche d'une énigme, d'un mystère. Va-t-il être ou non élucidé, ça, c'est une autre question.
C'est pas du tout prétentieux, parce que le livre est effectivement reconstruit comme ça, et en plus, tout ce qui vous tient à l'haleine, pardon, tout le temps du livre, c'est va-t-il y arriver? Ce qui est très amusant, pour en revenir donc au cuirassé dépressif, et ce qui vous fait enrager, au fond, c'est que lui a réussi complètement par hasard.
Oui, tout à fait. Bah oui, c'est toujours comme ça. Lui, il a comme ça, comme une fleur, là, il est entré à. Mais il est pas allé au sommet de l'église, parce que c'est ça, quand même, qui est le plus important. Et voilà, bon, moi, je n'en dirai pas plus à ce sujet. C'est pour ça aussi que je parle beaucoup dans ce livre aussi de Vertigo d'Hitchcock. Là, vous savez, là, toute l'énigme va se résoudre justement dans le fameux clocher, là, où Kim Novak se précipite. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film qui est un des plus beaux films d'Hitchcock. Oui, la solution de l'énigme est dans l'escalier de cette église, de ce clocher-là, comme à Eylau. Donc, alors oui, il y a cette figure-là de ce cuirassé solitaire aussi qui est un peu, qui m'a ému parce que c'est un peu aussi, vous savez, en voyage, il y a toujours des gens qui sont ostracisés, dont on ne veut pas. Ça vous est arrivé, vous voyez, ils veulent se mettre à votre table et les gens disent non, non, désolé, c'est déjà pris. Hein, on en connaît comme ça, et moi, c'est une figure qui m'émeut beaucoup. Et quand j'étais journaliste, je voyais quelquefois le soir de reportage, il y a pourquoi ils étaient ostracisés sans raison. Hein,
Oui,
vous en avez vu des gens
oui.
comme
Oui,
ça?
ça,
Hein, on en
c'est
voit, moi j'ai.
figure classique des phénomènes de groupe, et surtout de ce type-là, quand on est en période de danger ou
Voilà.
d'émotion.
Ben, lui, c'est un peu ça. Alors donc, il essaie de trouver une place, et donc mes enfants disent, oh là là, non, il est casse-pied, on ne veut pas le voir, etc. Mais. Bon, finalement, je l'invite à se joindre à nous.
Alors, je vais vous poser également une question et revenir un peu sur la personnalité du colonel Chabert. Bon, il est évident qu'en lisant, en lisant ce livre, en lisant, qui est énervé par cette présence perpétuelle du colonel Chabert, on est obligé de penser d'une manière beaucoup plus directe que dans d'autres livres de votre vie, de ce qui vous est arrivé. Et est-ce que vous y avez pensé d'une manière consciente? Ou est-ce que le colonel Chabert était un personnage qui vous poursuivait depuis toujours, depuis avant votre captivité au Liban, depuis avant tout ce qui vous est arrivé.
Oui, alors, bon, moi, j'ai toujours aimé Balzac. J'aimais particulièrement le colonel Chabert. Et puis, c'est vrai que dans la famille, mes enfants aiment Balzac. Et puis, c'est une figure qu'on aime bien, Chabert, justement, parce que, aussi, c'est une victime, mais, vous voyez, face à la malveillance du genre humain, il oppose une sorte de stoïcisme. Il y a une sorte de gaieté chez lui. Hein. Pourtant, la situation qu'il vit est vraiment dramatique, mais il a un certain humour. Parce que il faut dire ça, ceux qui n'ont pas lu le colonel Chabert, et je vous invite vraiment à lire, c'est un très court roman, c'est très gai. C'est très plaisant, c'est très drôle, comme beaucoup d'ailleurs de romans de Balzac. On ne le dit pas assez, et ce livre-là est particulièrement drôle. Rien que l'arrivée de Chabert dans cette étude-là, dans l'étude de l'avoué d'Herville, c'est tous les avoués, les clercs là, qui sont là, et ils se moquent de lui. Là, ils voient ce vieux Carrick-là, il est mal habillé. Ben oui, il est habillé. C'est un personnage totalement désuet. Il n'est plus dans le monde actuel. Alors on se moque de lui. Et Balzac l'appelle le défunt. Il y a toujours cette distance. Oui, alors évidemment, pour répondre à votre question, il est évident que je ne me suis pas identifié à Chabert, au revenant. Mais c'est vrai qu'il y a certains. À certains égards, pourrait y avoir des points communs dans la mesure où je le dis d'ailleurs dans mon livre, hein, c'est pas un sujet tabou. C'est-à-dire que moi aussi, je suis revenu dans un monde qui n'était plus le même, en tout cas par rapport au métier notamment que j'exerçais. Hein, métier de journaliste, c'est vrai, pendant ces 3 ans d'absence, avait changé. Alors, il a encore bien plus changé aujourd'hui, vitesse grand V. Et moi, je ne pouvais plus. C'est vrai que ces 3 années avaient tué, en quelque sorte, le journaliste. Je ne pouvais plus exercer cette profession comme par le passé. Moi, j'étais. C'est vrai que journaliste est quand même, malgré tout, vous ne me démentirez pas, Yves, il y a quand même un côté voyeur. Moi, je voyais la souffrance d'autrui, puis moi, je suis devenu à mon tour objet de cette souffrance. Donc, pendant ces 3 années, j'ai eu le temps de réfléchir. Et donc, alors, le retour, justement, c'est quelque chose qui est très brutal. Aussi, hein, on parle la captivité, c'est évidemment quelque chose de dur, mais le retour aussi à quelque chose de brutal. Là, vous voyez, j'ai parlé là, nous sommes à Bordeaux, la ville natale de Jean Cayrol, qui a inventé cette figure, le héros lazaréen, hein, celui comme Lazare qui sort du tombeau, qui sort des ténèbres et qui surgit à la lumière. Ça a quelque chose de très très violent. Et bon, bah, c'est vrai que je l'ai éprouvé moi aussi. Donc, et puis ce monde, donc, qui avait changé, qui n'était plus tout à fait le mien. Et c'est vrai que dans cette, il y a eu une phase d'adaptation qui a été difficile. Mais bon, moi, j'ai été bien accueilli, alors que le colonel Chabert, lui, bah, il voit que personne ne veut le reconnaître et il retourne d'où il vient, au royaume des morts, c'est-à-dire qu'il tourne le dos à la société. Il revient dans l'hospice où il est né, puisque c'est un enfant trouvé aussi, il faut le préciser, dans sa biographie.
Alors, je ne sais pas si vous êtes arrivé ou si ça va vous arriver, mais si vous avez lu le livre, manifestement, je ne suis pas le seul, parce que j'en ai parlé à beaucoup de personnes qui ont lu votre livre. Dans la foulée, j'ai relu le colonel Chabert, d'ailleurs. Et effectivement, tout ce que vous dites est vrai. D'abord, c'est effectivement très court. Il a l'avantage, en plus, on peut le télécharger maintenant très facilement. Enfin, il y a plein d'avantages de ce genre-là. Mais c'est vrai que c'est un livre qui est stupéfiant de modernité, de ce que vous dites, de ce que vous dites. Vous avez totalement raison. D'un héros universel et qui demeure universel.
Oui, mais d'ailleurs, comme Balzac est un romancier éminemment moderne, hein, pour moi, et pas uniquement à travers le colonel Chabert, comme disait Baudelaire, qui a inventé. C'est pas lui qui a inventé d'ailleurs le mot de modernité. Le premier mot, la modernité, justement, c'est dans un livre de Balzac, à l'époque où il ne les signait pas encore du nom d'Honoré de Balzac. C'est lui qui a eu le premier, avant Baudelaire, à inventer ce mot de modernité. Donc Baudelaire dit, même les portières ont du génie, les portières de carrosse ont du génie chez Balzac. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc, alors, si vous n'avez pas lu Le colonel Chabert, je vous conseille l'édition Flammarion, remarquable, en poche. C'est la meilleure.
Bon, ça dit, si vous n'avez pas lu Le colonel Chabert, n'oubliez pas non plus de lire le livre de Jean-Paul Kaufmann. Je vais vous poser une dernière question. Ce livre est construit comme une quête, d'une certaine façon, mais une quête un peu mystérieuse, un peu invisible. Et qu'avez-vous ramené de ce cimetière glacé qui semble, d'une certaine manière, vous avoir hypnotisé?
Ben, oui, ce que je disais enfin, tout à l'heure, oui, cette présence invisible, et puis que il y a toujours, y a toujours une trace, on ne peut jamais effacer une trace. Il y a toujours une empreinte, même quand on croit que tout cela a été gommé, détruit par l'histoire, par. Bah oui, par les années qui se sont succédées. C'est ça qui m'a ému, moi. C'est ce site d'Eylau, là, qui est intact, qui est indemne d'ablation, et qui n'a pratiquement pas bougé. La présence de cette église aussi. Et puis, oui, toutes ces choses-là. Oui, qu'on a voulu peut-être oblitérer, qu'on a voulu. Je parlais tout à l'heure de ce tour de prestidigitation. Vous savez que Michelet appelait Napoléon le grand prestidigitateur. On a essayé en effet de faire disparaître cette bataille de nombreuses façons, ne serait-ce qu'avec cette peinture du Baron Gros. Et puis elle est là, voilà, c'est peut-être ça. On n'arrive pas à supprimer ce qui a eu lieu.
Merci beaucoup Jean-Paul de cette heure
Merci.
Passée ensemble. Merci à vous d'être venu.
Merci à toi.
Je vous en prie.